Découvrir la France sous un jour nouveau, celui de sa diversité géologique. Au fil de leur évolution, les roches ont façonné une variété de paysages qui racontent le caractère minéral de notre pays, des falaises, des montagnes, mais des rochers et des volcans que nous allons visiter avec mes invités dans quelques instants et auxquels vous pouvez poser toutes vos questions géologiques dès maintenant. Vous nous retrouvez bien sûr sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, l'étude publiée jeudi sur la e-cigarette et qui affirme qu'elle pourrait s'avérer plus cancérigène que le tabac. Les critiques pleuvent depuis sur ce papier, pourtant publié dans une prestigieuse revue anglaise. Décryptage et analyse avec nos invités. Violaine Ballet réalise cette tête au carré qui a été préparée par Anne-Cécile Perrin, Axel Villard et Fanny Cohen-Moreau.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Pierrick Graviot et François Michel, bonjour à tous les deux. Bienvenue, c'est donc avec vous que nous allons faire ce tour de France géologique dans quelques minutes. Pierrick Graviot, avec un prénom et un nom pareil, c'était absolument impossible pour vous d'échapper à la géologie. Vous étiez carrément prédestiné quand même, c'est extraordinaire, non ?
Tout à fait, je crois que mes origines, je ne peux pas les,
Bretonne,
les cacher. Bretonne, ouais. La côte de granit rose, et c'est vrai qu'avec un nom pareil... Je n'avais qu'une chose à faire, c'était de la géologie.
Bon. Et vous avez commencé très jeune
toute ma vie.
À collectionner des cailloux en Bretagne.
Exactement,
ça j'ai commencé,
j'avais 13-14 ans.
Il paraît que c'est en Bretagne que l'on trouve les roches les plus vieilles d'ailleurs de notre pays, c'est exact?
Tout à fait, 2 milliards d'années, les roches les plus anciennes de France que l'on trouve en Bretagne, mais également dans le nord du Cotentin.
Ouais, sur la côte de granit rose, c'est ça
Absolument.
Pour la Bretagne, 2 milliards.
Absolument, en baie de Lannion, 2 milliards, ouais. 2 milliards d'années exactement.
C'est une vraie rareté sur notre territoire?
C'est une rareté, puisque en fait, on en trouve uniquement sporadiquement donc sur cette côte de granit rose.
Ouais.
Et puis, comme je le disais à l'instant, au Cap de la Hague, dans le Cotentin.
François Michel, les roches qu'on croise au cours de nos balades nous racontent tout un tas d'histoires justement sur notre pays, des histoires évidemment très anciennes, on le voit là. Si on va à Fontainebleau, par exemple, on peut se rappeler que la mer était présente il y a quelques millions d'années quand même.
Quelques 35 millions d'années.
Ouais.
Voilà, à ce moment-là, elle occupait le cœur du bassin parisien, des grandes plages. Et puis, progressivement, elle s'est retirée. Et puis, petit à petit, les effets de la nappe phréatique a transformé au moins la partie superficielle de ces sables en grès. Et puis, depuis ce temps où tout est dégagé, eh bien, les grès se cassent, s'éboulent. Et ainsi naissent ces chaos absolument magiques, terrain d'aventure pour tous ceux qui aiment la promenade ou l'escalade.
Voilà, ce sont donc toutes ces histoires que vous allez nous raconter. Dans quelques minutes, on va se retrouver avec les questions des auditeurs. À la une de la science aujourd'hui, c'est à nouveau la e-cigarette qui fait parler d'elle et qui fait couler pas mal d'encre depuis l'apparition jeudi donc dans le New England Journal of Medicine d'un papier. Des chercheurs américains se sont intéressés au taux de formaldéhyde, ce cancérigène bien connu qui est dégagé par la fumée de e-cigarette. Les résultats décrivent que sous certaines conditions, la vapeur de e-cigarette serait plus chargée en formaldéhyde que la fumée de cigarette. Jean-François Morène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cancérologue, chef du service onco-hématologie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, et à vos côtés, notre docteur Dominique Dupagne. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
D'abord, une question que la presse s'est beaucoup posée cette semaine. Est-ce que cette étude critique donc pour la e-cigarette aurait été financée par l'industrie cigarettière ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait des liens d'intérêt financier derrière. C'est plutôt intellectuel, c'est faire un papier qui fait parler de lui finalement.
Ouais. Alors d'ailleurs, ce n'est pas une étude, c'est
non,
une
non.
correspondance.
C'est une lettre à l'éditeur, donc c'est le format minimal de la publication scientifique. Et on a travaillé sur des extraits de liquide de cigarette qu'on a fait chauffer à des voltages variés et à haut voltage. On fait apparaître, et c'est le titre de l'article d'ailleurs, c'est « Il existe du formaldéhyde caché dans le liquide de cigarette ». Quand on chauffe beaucoup, ça brûle un peu et ça fait sortir des produits qui sont irritants.
Voilà. À quel voltage justement ?
Alors, ça dépend du lien entre le voltage et l'alimentation liquide. C'est pas aussi simple que ça.
Ouais.
C'est bref, quand on augmente la chauffe et qu'on diminue l'arrivée de liquide, pour parler vulgairement, ça crame.
Ouais. Le professeur Bertrand Dotzenberg disait par exemple hier dans Science et Avenir que ces résultats étaient une lettre torchon.
Partager
son sentiment.
Pour une fois, c'est lui qui dit des gros mots. Je dirais, disons que ce qui est ennuyeux, c'est de monter en épingle des travaux qui sont certes amusants, voire intéressants, mais enfin qui sont quand même des extrapolations. Enfin, on va en parler avec le professeur Morère, mais aller calculer, aller écrire dans le corps de la lettre que cette cigarette électronique pourrait être 5 à 15 fois plus cancérigène que la cigarette fumée, là, en effet, ils ont un peu fumé trop de choses, là, les auteurs. Quand
Alors, Jean-François Morère, on va prendre évidemment votre avis dans un instant. Juste un détour quand même par les États-Unis. Axel, Bruxelles, puisque vous avez joint hier soir un des auteurs de cette étude.
Oui Mathieu, j'ai discuté avec James Pankow, il est professeur à l'université de l'Oregon. Il travaille sur les systèmes moléculaires environnementaux et il me disait que la presse américaine comme la presse française n'avait pas été très gentille avec son étude. Écoutez-le.
Nous ne sommes ni pour ni contre la e-cigarette. Nous pensons simplement que les gens devraient faire attention aux conditions dans lesquelles ils l'utilisent. Car il est quasiment certain que certaines utilisations sont plus dangereuses que d'autres. Vous savez, les gens vapotent en moyenne 3 millilitres de e-liquide par jour. Et ce que dit notre étude, c'est que si vous vapotez à haute puissance 3 millilitres de liquide par jour, vous allez respirer plus de formaldéhyde que si vous fumiez un paquet de cigarettes, si, bien sûr, vous vapotez à de haute puissance.
Vous savez, nous avons publié ces résultats dans un format très limité, 400 mots environ dans cette lettre. Et je suis sûr que vous, les journalistes, vous avez utilisé plus de 400 mots pour commenter notre étude. Il est toujours possible, évidemment, d'écrire des choses plus claires et peut-être que nous aurions dû rédiger certains passages plus consciencieusement. Mais vraiment, nous avons fait de notre mieux.
Alors Jean-François Maurer, qu'est-ce qu'il faut penser de ce taux de formaldéhyde dans la e-cigarette et sur l'aspect cancérigène évidemment du produit ?
Alors moi je dirais que cette étude est plutôt bienvenue parce qu'en fait la Société américaine de cancérologie clinique et la Société américaine de recherche en cancérologie auquel j'ai le grand bonheur et l'honneur d'appartenir, viennent d'émettre des recommandations sur la e-cigarette et l'une des recommandations c'est de faire beaucoup plus de recherches sur les e-cigarettes parce qu'aujourd'hui les effets secondaires sur la santé sont encore mal connus. Donc, c'est peut-être une petite pierre à l'édifice. Alors, est-ce qu'il faut retenir exactement les conclusions des auteurs ? Après avoir entendu l'auteur commenter son papier, je retiens quelque chose, c'est qu'il parle de l'utilisation, c'est-à-dire de la fonction, la façon d'utiliser
le... Avec le voltage, la façon
avec
de faire
le voltage.
Chauffer.
Alors, si on regarde bien l'étude, on voit qu'à bas voltage, il y a zéro produit toxique qui se dégage. Et si on utilise un très très fort voltage, alors je dois dire, j'ai aucun conflit d'intérêt, je ne suis pas fumeur et pas fumeur de cigarettes, ni vapoteur. Donc je ne connais pas vraiment bien comment on fait, mais je crois, d'après ce que je connais, qu'on ne peut pas utiliser de façon continue un très fort voltage parce que, effectivement, ça donne une température de vapeur et une irritation très importante du système respiratoire qui ne peut pas vous conduire à une exposition prolongée
alors,
sur le temps.
Admettons justement qu'on soit sur un voltage important, donc à partir de 5 volts, qu'est-ce que ça donne au niveau de la production de formaldéhyde
alors,
et de ses effets sur l'organisme ?
Selon leur étude, effectivement, on voit qu'il y a un peu plus de formaldéhyde, enfin il y en a plus, puisque c'est non détectable quand on l'utilise à température, si je puis dire, normale, alors qu'on voit du formaldéhyde se dégager à plus fort.
Ouais. Et
plus
vous, fort en tant qu'oncologue, alors, qu'est-ce que vous en déduisez ?
Alors moi, ce que j'en déduis, si vous voulez, c'est que le formaldéhyde n'est pas la substance véritablement cancérigène, je vais dire du fumage, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que si vous fumez des cigarettes, vous avez des goudrons, vous avez des nitrosamines, on a même parlé d'arsenic, vous avez une liste de plusieurs dizaines de produits toxiques et cancérigènes. Là, on est juste sur le formaldéhyde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est encore quand même plus dangereux de fumer un paquet ou deux paquets de cigarettes par jour, voire moins, on sait que ça commence à partir de deux cigarettes par jour, que d'utiliser, je dirais de façon raisonnable, une e-cigarette, où on va éviter tous ces produits toxiques. Et si on l'utilise manifestement à un voltage
plus important,
enfin plus bas, on n'aura pas
plus bas,
de toxicité,
pas de problème. Et plus fort,
et
5
plus
volts.
Fort, et ben à ce moment-là, je pense qu'il y a un principe de précaution qui fait qu'on devrait avoir d'autres études nous disant vraiment si ce formaldéhyde peut être toxique.
Dominique.
En fait, comme l'a dit Monsieur Maurer, le problème, c'est qu'on est face à un produit qui n'émerge pas de la recherche, qui n'émerge pas de l'université, qui est apparu chez les fumeurs, chez les bricoleurs. Et donc, les chercheurs courent un peu derrière, si vous voulez. Ils sont devancés par un produit qui apparemment quand même a un impact très fort sur le sevrage tabagique, pas pour tout le monde, mais chez certaines personnes. Et donc, il court derrière. Donc, psychologiquement, il y a une espèce de réticence en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On l'a pas bien étudié. Attendez, il faut faire quelque chose. Mm-hmm. Moi, je suis un petit peu gêné vis-à-vis des réticences exprimées pour ce produit. Ça me fait penser aux préservatifs quand il y a eu le sida. Il y a des gens qui ont publié des études montrant qu'il y avait des trous, qu'on pouvait laisser passer des virus, que c'était pas complètement sûr et qu'on commençait à laisser entendre que le préservatif n'était pas sûr pour le sexe et qu'à la limite, il fallait pas avoir de sexualité du tout si on voulait de la sécurité, ce qui était extrêmement dangereux comme attitude. Donc là, bien sûr, c'est mieux d'étudier les choses.
Mais enfin, c'est bien de se poser des questions, mais quand bien même, sûr, parce qu'on vapote avec des liquides qu'on met
mais là, on se met dans des conditions expérimentales qui ne sont pas la réalité. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'on fait chauffer le truc jusqu'à le cramer pour faire sortir des irritants. Personne ne peut respirer des irritants durablement. Ça vous arrache la gorge, vous ne pouvez plus respirer. Si vous fumez du formaldéhyde en continu, vous toussez toute la journée, c'est épouvantable.
Jean-François Maurer.
Alors, je pense effectivement qu'on a un bon esprit, donc on ne pense pas que c'est du lobbying pour revenir
à la cigarette.
Mais peut-être qu'on va trouver une marque de d'e-cigarette qui va nous dire qu'elle est contrôlée et qu'elle ne pourra pas dépasser un certain voltage et qu'elle est sans danger. Enfin, moi, voilà, ça c'est peut-être du mauvais esprit. En
fait. Axel, des messages sur le mot-clé l'attaque.
Sur Twitter, un tweetos Nono le chat qui dit « L'e-cigarette disposerait-elle d'une immunité scientifique? Est-elle intouchable? Qu'en pensez-vous ?»
C'est vrai qu'on a l'impression que dès qu'on s'attaque, on ose s'attaquer à la e-cigarette aujourd'hui, on a une levée de bouclier de gens comme vous, Dominique, d'ailleurs.
Hein, c'est-à-dire qu'il a défendu. On est face à un produit qui est utilisé depuis 10 ans, qui contient des produits connus depuis 50 ans, et qui est destiné à supplanter d'autres produits extrêmement dangereux, responsables de milliers de morts tous les ans. Et on leur cherche en permanence des poux dans la tête à partir, encore une fois, d'extrapolation. C'est-à-dire, si on fait ça, si on chauffe à fond, on a un certain taux, et si on le fume pendant 20 ans, multipliant par un facteur truc, on arrive à bidule. Ça commence, c'est pas très sérieux, si vous voulez. Quand même.
Jean-François Maurer, en conclusion.
Eh bien, écoutez, moi, je dirais effectivement que d'après ce que l'on sait, la e-cigarette est quand même beaucoup moins toxique que fumer des cigarettes. C'est environ c'est par des facteurs 10, et ça peut être 80 fois moins toxique que fumer des cigarettes. Donc,
pour l'instant, à la lumière des
données scientifiques, on sait qu'il y a des effets secondaires. Il peut y avoir mal à la tête, il peut y avoir des nausées, il peut y avoir une irritation, des spasmes des voies respiratoires. Mais en ce qui concerne le cancer, aujourd'hui, bon, c'est pas démontré. Il y a, je dirais, un principe de précaution, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il faut faire d'autres études complémentaires.
Mmh. Dominique, le mot de la fin pour conclure.
En pratique, la toxicité de la e-cigarette prouvée actuellement, c'est zéro. On est dans des suspicions qui pourraient arriver à ce qu'elle soit éventuellement 100 fois moins toxique que la cigarette fumée. Mais les certitudes scientifiques actuelles sur la cigarette, c'est aucune toxicité constatée. Il faut le dire quand même.
Je recommande à mes patients qui fument de fumer plutôt des e-cigarettes que des cigarettes.
Non, il faut le redire.
Il n'est jamais trop tard pour s'arrêter de fumer. Si c'est un moyen de pouvoir diminuer sa consommation de cigarettes, je pense qu'il faut continuer à l'utiliser avec les précautions qu'on a dites à bas voltage.
Et je rappelle que vous êtes oncologue, Jean-François
Maurer. Je suis cancérologue, oui.
Merci beaucoup d'être venu. Merci Dominique Dupagne. Merci Axel. On poursuit d'ailleurs les conversations sur le mot-clé l'attaque. Allez, puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'astéroïde dont nous avons parlé hier et qui a frôlé la Terre a créé la surprise en dévoilant une lune. Les astronomes ne s'y attendaient pas car la petite lune n'avait jamais pu être observée jusqu'à présent. On peut la voir, s'en approcher et s'en éloigner donc de l'astéroïde de façon assez rythmée. C'est sur une vidéo de la NASA que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la Tête au Carré. Toujours dans le ciel, des mystérieux signaux radio datant d'environ 5,5 milliards d'années captés en temps réel. Ils ont été enregistrés en direct le 14 mai dernier par des astronomes de l'observatoire de Parkes en Australie. Et dans une publication datée de la semaine dernière, les chercheurs précisent que ces signaux très brefs de quelques millisecondes seraient extérieurs à notre galaxie. Ils viendraient peut-être de la constellation du Verseau. La cause encore mystérieuse de ces signaux pourrait être l'explosion d'une étoile dégageant autant d'énergie en quelques millisecondes que le Soleil en 24 heures. Et puis enfin, comment décuire un œuf dur? Eh bien, ils l'ont fait. Des chercheurs américains et australiens ont trouvé une méthode pour rendre sa composition initiale à un œuf qui avait été cuit pendant 20 minutes. Avec un peu d'urée et un passage dans une centrifugeuse, les scientifiques ont permis aux protéines de l'œuf de reprendre leur agencement d'origine. Le résultat n'est pas vraiment mangeable, mais l'objectif était de trouver une solution efficace pour nettoyer les tubes de verre où s'accumulent des protéines collantes. Opération réussie. Les cailloux sont partout et dans un instant, dans le dossier de la Tête au Carré.
Teach the world to snuff the fires and the liars. Hey, I know it's just Is soaked with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the close up, Mr. Wilson can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax.
Smash Mouth avec Walking on the Sun.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Allez, c'est parti pour un tour de France géologique avec mes invités cet après-midi dans la tête au carré pour découvrir cette diversité de roches donc sur notre territoire, mais également les usages qui en sont faits et pour nous guider, les géologues Pierrick Graviot et François Michel. Pierrick Graviot, donc, vous travaillez au BRGM d'Orléans. C'est le bureau de recherche géologique et minière et vous êtes l'auteur de très nombreux guides géologiques. L'un des tout derniers est consacré donc à votre pays, la Bretagne, c'est ça?
Tout à fait. Tout
il
à
est
fait.
Publié aux éditions Omniscience avec le BRGM. Et puis François Michel, vous êtes consultant pour le Centre technique de la pierre. Vous êtes également guide d'haute montagne. Et
oui.
Et vous avez publié beaucoup d'ouvrages aussi, dont Le Tour de France d'un géologue, qui a été publié aux éditions Delachaux et Nestlé. Toutes les informations sont sur le site internet, évidemment, de la Tête au Carré. Et puis les questions des auditeurs qui arrive sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Alors c'est vrai que j'aimerais vraiment tout de suite pour commencer signaler ce dernier numéro de la revue Espèces, la revue d'histoire naturelle, qui nous a inspiré ce dossier cet après-midi avec un spécial géologie consacré aux pierres dans la vie des hommes. Pierrick Graviot, vous l'avez coordonné ce numéro?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai rencontré Cécile Breton, la rédactrice en chef de, cette
donc.
Très belle revue ouais. d'histoire naturelle, Espèces, au Salon du Livre de Paris. Et elle m'a tout de suite proposé d'écrire un article sur la géologie dans cette revue qui est plutôt en général consacrée à la flore et à la
faune.
Et puis, voilà, un article, c'est quand même très court. Donc, je lui ai répondu en disant qu'un numéro spécial, ce serait mieux. Elle a tout de suite accepté et j'ai donc contacté un certain nombre de collègues, dont François Michel, bien évidemment, ici présent, tous de grands vulgarisateurs, de grands médiateurs scientifiques qui ont donc collaboré à cette revue.
Avec à la une, quelque chose de magnifique, c'est une photo d'une bergerie corse, justement, François Michel, que vous pouvez nous décrire. C'est un oriou, c'est ça le nom exact?
Voilà, c'est ce qu'on appelle en Corse des taphones ou taphonies, quand on est au pluriel. C'est-à-dire ces cavités, des alvéolisations, des cavités qui sont creusées au sein du granit, petit à petit, sous l'action un peu du vent, mais surtout de l'humidité, des variations de température.
Donc c'est les ruissellements de pluie,
voilà,
par exemple.
Et puis aussi en bord de mer, les eaux salées. Un premier cristal part, puis un deuxième, puis trois, puis quatre. Et puis petit à petit, de cette façon, eh bien, la cavité se creuse, ouais, au point de dessiner eh bien, ces taphones qui sont absolument magnifiques, voilà, et si vraiment caractéristiques.
C'est magnifique, ouais. Ah, c'est oui, une c'est bergerie, on dirait un gros champignon en pierre, en fait.
Ah, hein, oui, c'est super.
Un peu penché. Voilà, donc c'est à la une d'Espèce, cette revue d'histoire naturelle, qui est encore en vente pour le numéro sur la géologie. Donc dépêchez-vous de le trouver, parce que le nouveau numéro de février va sortir très bientôt. Pierrick Graviou, c'est vrai qu'on découvre aussi dans ce numéro toute la diversité géologique de notre pays. C'est une véritable mosaïque de pierres, de roches en tout genre. On a cette diversité ici en France et dans les départements d'outre-mer aussi. Hein.
Oui, alors tout à fait. L'idée, en fait, avec ce numéro spécial, c'était de montrer que la géologie est universelle, comme on disait tout à l'heure, que les cailloux sont partout. Hein. Et c'est vrai que pour illustrer un petit peu ce propos, la géologie de la France est parfaitement adaptée, puisqu'en fait, on a la chance dans notre pays, sur notre territoire, d'avoir une mosaïque de roches absolument extraordinaire. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder une carte géologique. Hein. La carte géologique à l'échelle du million, par exemple, qui est éditée par le BRGM, et qui montre cette mosaïque de couleurs, chaque couleur représentant une roche différente ou des roches d'âge différent. Et là, on se rend compte lorsqu'on se promène, par exemple, en voiture, en France, on ne peut pas faire 10 ou 20 kilomètres sans changer de paysage. Et le paysage change parce que le sous-sol a changé.
Ouais, et François Michel, on s'aperçoit que toute la culture d'un pays comme le nôtre est influencée directement par son sous-sol, par ses roches.
Exactement. Alors, à commencer par les noms des terroirs et puis aussi par les constructions. Quand on se promène quelque part dans le Massif central, on va trouver des murs de granit et de schiste et de gneiss, des toitures en lauze avec d'autres schistes ou des ardoises. Par contre, quand on va être quelque part du côté du Luberon, eh bien, toutes les maisons seront en calcaire. Et ce calcaire n'est pas le même que celui qu'on va voir sur les bords de la Loire pour construire les châteaux et qu'on appelle le tuffeau. Et puis, quand on se balade dans la Picardie, où il n'y a plus que de la craie, et que cette craie est tendre, eh bien, on ne peut pas construire avec. Et on a recours à la cuisson de la brique, à la cuisson de l'argile, ouais, pour faire des maisons bien caractéristiques.
Et chaque région donc, est marquée, hein, véritablement par son histoire géologique et sa culture en découle directement.
Absolument. Et son terroir, moi je voudrais rebondir sur ce que vient de dire François, puisqu'il a déjà abordé la notion de terroir. Le terroir, c'est quelque chose de typiquement français. J'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années des traducteurs anglo-saxons qui m'expliquaient que pour traduire le mot terroir en anglais, il faut au minimum 4 à 5 lignes de texte. Or, ce terroir, en France, est finalement défini par son sous-sol, par la géologie.
Ouais. Qu'est-ce qu'il exprime alors ?
C'est lui qui va dicter le paysage, le relief, l'habitat, les matériaux de construction, voire la vigne, la végétation.
Ouais. François Michel, oui, il y a la terre, mais il y a la roche. Hein,
voilà, voire même la religion d'origine. Hein, on a encore
parler.
Mais c'est évident. Et tous les pays de druides sont des pays de granit et plus spécifiquement d'ailleurs des pays de chaos de granit, où on retrouve ces amoncellements de blocs, de boules, avec cet espace un petit peu féerique, hein, que ce soit en Bretagne, soit dans le Massif central, que ce soit dans le Tarn, du côté de la Montagne Noire ou du côté du Cidobre. Et partout, il y a une espèce d'interpellation comme ça du sous-sol sur les hommes, sur leur mental.
Pierrick Graviou, il y a une question de Nadine sur franceinter.fr qui nous dit qu'elle est fascinée par les roches rouges et vertes de Bréhègue dans les Côtes d'Armor. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit bout d'histoire de ces roches précisément?
Alors, en quelques mots, parce que bon, ce sont des roches que je connais bien, mais là, on va on va s'engager dans une conversation qui pourrait ne pas avoir de fin, si je puis dire. Cette dualité roche verte, roche rouge qu'on a à Bréhec traduit en fait deux âges différents, de deux terrains complètement différents. Les roches vertes correspondent à des roches très anciennes qui sont antérieures à 600 millions d'années, des roches sédimentaires, et qui coexistent, on va dire, sur le terrain avec des roches beaucoup plus récentes, qui sont pas très bien datées, mais on va dire qui ont à peu près 470 millions d'années.
Et comment on explique alors cette disposition et cette cohabitation ?
Eh bien, en fait, tout simplement parce qu'il y a eu deux périodes de sédimentation qui se sont succédées dans le temps, si vous voulez. Alors, roche verte au précambrien, et ensuite roche rouge, en gros à l'ordovicien, on va dire, parce qu'on était dans un milieu plus ou moins émergé avec oxydation du fer présent dans les sédiments.
François Michel ?
Oui, Pierrick, il a tout à fait raison. Et c'est vrai que dans les sédiments et dans les colorations des roches, la part des métaux, et en particulier du fer et aussi de l'aluminium, est très très importante. Et selon les degrés d'oxydation, c'est-à-dire selon les conditions environnementales de la formation de la roche et du sédiment, plus ou moins à l'air libre, plus ou moins dans un milieu oxydant, plus ou moins dans un milieu réducteur, on va obtenir des jaunes, des verts, des rouges, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ou presque. Et c'est comme ça que naissent eh bien, toutes ces variétés.
François demande, est-ce que vous pourriez nous donner une définition simple de ce qu'est une roche mère, précisément ?
Une roche mère, c'est une roche qui est à l'origine d'une autre, c'est-à-dire le plus souvent eh bien, d'un sédiment. Si on parle du granit, par exemple, on va souvent le qualifier de roche mère par rapport à toute sa désagrégation, toute son altération, qui va faire naître à partir de ce granit, eh bien d'abord dans un premier temps un sable grossier, hein, constitué de grains de sable et puis d'un mélange argileux, donc qu'on appelle l'arène granitique. Le mot arène, d'ailleurs, c'est un joli mot, hein, c'est le mot aussi de la corrida, ça veut dire sable tout simplement. Et puis eh bien, petit à petit, cette arène va être lessivée et sable et argile vont se séparer. Donc on peut dire que la roche mère de sable et argile, c'est du granit. Mais ça peut être dans d'autres cas une roche métamorphisée où la roche mère est antérieure et a donné naissance à une roche secondaire.
Au sujet du sable, justement, ce message de dauphin, les cailloux sont partout. Par contre, bientôt plus de sable. J'ai entendu que c'était la seconde ressource la plus consommée sur Terre, juste après l'eau. Personne ne le sait parce qu'on n'en parle jamais. 15 milliards de tonnes par an, on gaspille tellement de sable qu'il est en train de disparaître à la fin du siècle. Toutes les plages de la planète auront disparu. C'est une bombe à retardement écologique. Alors, bon, François-Michel, est-ce que vous allez un peu nous rassurer, temporiser les choses ?
On va essayer de remonter un peu le moral. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de juste dans ce propos. Non pas la fin du sable, n'exagérons pas. Mais c'est vrai qu'il y a une consommation très très importante. Ouais. Que ce soit pour des comblements, que ce soit pour du béton, pour tous les matériaux artificiels, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'il faut dire déjà, très rapidement ? C'est qu'on exploite quand même statistiquement de moins en moins de sable dans les zones alluvionnaires. On s'en va un petit peu plus en mer, c'est vrai, oui. Et de moins en moins dans les rivières, parce que la pression écologique fait que c'est une bonne chose. Par contre, on fabrique aujourd'hui des sables artificiels en concassant des roches dures comme des basaltes, par exemple, dans le Massif central. Donc, maintenant, l'homme n'est pas le seul responsable de la disparition des sables. Toutes les tempêtes et la montée quand même légère, certes, mais progressive du niveau marin et l'accentuation eh bien, de l'érosion sur les côtes fait, et on le voit très bien, en particulier dans les Landes, que eh bien, beaucoup de plages dégraissent, comme on dit, d'année en année.
Allez, on se retrouve dans un instant pour ce tour de France géologique avec les messages qui arrivent en ce moment sur le site de la Tête au Carré. Le temps de filer à l'hôtel Thérèse de Julien Doré.
Spin de bush en 58, hôtel Thérèse. En demi-dieu, faible, invincible sur la falaise. Je veux pas qu'on me touche. Je volerai l'écran de ton pur sang, cavalier seul et mis en touche. J'ai pris du poids sur la balance du room service. Je me parle de toi dans l'ascenseur au bois de lys. Je veux pas qu'on touche. Je volerai les reins des enfants rois qui à tes seins pendront leur bouche. Mon cœur te croyait morte, toi qui lui as donné la vie. Comme un loup sur la mer morte, sur le sirène de Colombie, mon cœur te croyait mort. des bûches en 58, hôtel Thérèse. Que reste-t-il de nos promesses sur la falaise? Je veux pas qu'on me touche. Je volerai les crânes au pur sang, cavalier seul et mis en touche. Je rends ma foi aux vierges douces de Saint-Supplice. J'entends ta voix dans les eaux troubles et à la Nice. Je veux pas qu'on me touche. Je volerai les reins des enfants rois qui à tes seins pendront leur bouche. Puisque tu pars, oublie-nous. Si je reviens trop tard pour le coup. Puisque tu pars, si je reviens trop tard, mon cœur te croyait morte. Toi qui lui as donné la vie, comme un loup sur la mer morte, jure le sirène de Colombie. Mon cœur te croyait morte. Toi qui lui as donné la vie, comme un loup sur la mer morte, jure le sirène.
La lave qui sort, qui se pétrifie, qui fait une roche, c'est une roche qui est plus jeune que tous nos auditeurs qui nous écoutent.
Au carré.
Donc oui, la géologie, c'est une science jeune. Et quand on fait de la géologie, ben, on s'intéresse justement au présent de la Terre, à son avenir, comme à son passé.
Sur France Inter.
Voilà, Jacques-Marie Bardenzeff, le volcanologue qu'on entendait à l'instant justement dans cet extrait. François Michel et Pierrick Graviou sont mes invités pour parler justement de cette France géologique, Outre-mer compris évidemment, parce qu'il y a beaucoup de diversité également dans les départements d'Outre-mer. Vos messages arrivent sur franceinter.fr. Alors hier, on consacrait l'émission à l'évolution. Est-ce qu'on peut parler de l'évolution justement pour le monde minéral? Est-ce que ça peut s'appliquer à votre discipline? Et est-ce qu'on est dans le vivant, tout simplement, François Michel, quand on parle de géologie?
Eh bien oui, je crois qu'il faut l'oser. La Terre vit. Elle a beaucoup changé depuis plus de 4 milliards d'années, depuis 5, plus de 5 milliards d'années. Petit à petit, eh bien la surface des continents, les quantités de granit, tout ça, ça évolue. Ce sont des choses, une soupe, si je puis dire, qui évolue très lentement, très doucement, mais qui évolue et sans arrêt, j'allais dire, la surface de la Terre se sophistique, se complexifie.
Mais est-ce que ça évolue intrinsèquement ou est-ce que ce sont toujours des éléments extérieurs qui font évoluer justement les roches?
Ça évolue intrinsèquement, alimenté, c'est vrai, par des sources profondes et par des venues volcaniques et par des venues au milieu des océans, certes, mais aussi par un brassage régulier de la matière où les atomes se recombinent, où les éléments chimiques se recombinent et sans arrêt se différencient. Et puis on peut accrocher aussi, je crois, la vie de façon très très forte parce que tout ce dont nous sommes fabriqués, eh bien, quand même, est issu de la matière minérale. Alors, il est régénéré, bien évidemment, et de l'énergie lui est intégrée pour fabriquer la matière organique, mais nous sommes complètement construits avec du minéral.
Solide comme du roc. Hein,
exactement.
Thierry Graviou.
Et puis, oui, alors, c'est aussi le principe de la tectonique des plaques. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette tectonique des plaques explique qu'au niveau des océans, au niveau des rifts, il y a de la matière solide qui est créée à partir du magma en permanence. Et par ailleurs, dans ce qu'on appelle les zones de subduction, cette croûte océanique qui a été créée préalablement disparaît à nouveau dans le manteau terrestre. Donc là aussi, une évolution permanente de la surface de la Terre.
Et tout s'alimente, parce qu'on parlait tout à l'heure alors de la culture française, par exemple, très influencée par la qualité de ses sols, mais la nature aussi du substrat influence énormément toutes les espèces vivantes qui habitent justement sur ces croûtes rocheuses.
Absolument. On parle beaucoup plus souvent dans les revues d'histoire naturelle et en particulier dans la revue Espèces de flore et de faune.
Ouais.
Mais c'est vrai que la matière minérale constitue en fait le substrat de tous ces organismes vivants.
Vous citez les escargots et les écrevisses par
voilà,
exemple. Hein.
On sait très bien par exemple que les escargots vont être plus nombreux et plus forts parce qu'ils auront une carapace plus résistante, enfin une coquille, exactement, et une carapace pour les écrevisses hein, en milieu calcaire qu'en milieu acide, par exemple granitique.
Ouais. C'est pareil pour le relief aussi.
Et c'est pareil pour le relief. Le relief dépend beaucoup de la résistance à l'érosion et à l'altération des roches.
Ouais.
Donc c'est pas le calcaire d'un côté et le granit de l'autre. Il y a des calcaires qui peuvent être très résistants, des granites qui, très altérés, peuvent être très facilement dégradables. Mais il y a des roches voilà, qui sont plus ou moins sensibles à l'érosion.
François Michel ?
Oui, il y a quand même plusieurs types de paysages. Il faut revenir à l'érosion. En fait, il y a trois modes d'érosion. Où on abîme, on use, on casse, on détruit. Ou bien on altère, on transforme un peu chimiquement et l'eau, elle abîme. Ou bien on dissout. Et en fonction de ça, eh bien des paysages différents vont naître. Et en particulier pour le calcaire, qui est sensible à la dissolution. Et il va naître dans les plateaux calcaires comme les causses, eh bien tous ces paysages karstiques, ruiniformes ou souterrains.
Alors justement, Jean-Paul nous dit ceci, on ne dira jamais ça l'importance d'Arsène Lupin dans notre éducation géologique. Grâce à lui, on a compris la Normandie, le Pays de Caux et ses aiguilles mystérieusement creuses.
C'est alors, vas-y Pierrick.
Pierrick Graviot.
Non, simplement, je souriais parce qu'effectivement, tout géologue sait très bien que l'aiguille à Étretat n'est pas creuse, bien évidemment.
Elle est bien percée quand même. Hein.
Elle est bien percée, mais l'intérieur, voilà, c'est du calcaire, de la craie qui est tout à fait équivalente à celle qu'on peut trouver sur le continent.
Bon, mais il a apporté sa contribution à la géologie quand même, d'une certaine
mais
manière.
Absolument,
hein. Il a sensibilisé les lecteurs.
Non, pas.
Et ceux qui ne sont jamais allés là-bas, on les invite vraiment à découvrir ces falaises exceptionnelles. Viron nous dit ceci, dans les plus anciennes roches, les stromatolites viennent d'Australie. Est-ce que c'est exact, François Michel ?
Oui, c'est exact. La chose très intéressante en Australie, c'est qu'on a à la fois des stromatolites. Alors, il faudrait peut-être dire ce que sont les stromatolites. Les stromatolites, ce sont des concrétions calcaires dues à l'activité de ce qu'on appelle les algues bleues. C'est-à-dire, c'est à la limite entre les algues et les bactéries. Ce sont des cyanophycées ou algues bleues et qui vont petit à petit provoquer des dépôts, des encroûtements calcaires qui vont se consolider les uns au-dessus des autres, formant des concrétions d'aspect un peu sphérique. Et c'est vrai que ce sont les plus anciennes traces d'une activité vivante très très simple.
Ouais.
Et on en trouve entre autres en Australie. Et la chance, donc 3,8 milliards d'années. Et la chance de l'Australie, c'est d'avoir en même temps des stromatolites qui se construisent aujourd'hui, en particulier à Shark Bay, où on a là tout un...
C'est
en Australie également, où on a tout un estran qui aujourd'hui, parce qu'il n'y en a plus beaucoup dans le monde, parce que c'est sensible aux pollutions et ça a eu tendance à disparaître.
Et donc là, on est spectateur du processus.
Et on est spectateur du processus, exactement.
Ouais, Pierre Guillaume.
Oui, je ne peux que confirmer les propos de François, bien évidemment. Je voulais simplement préciser le fait que les roches les plus anciennes du monde sont en fait au Canada et datées à 4 milliards d'années. Mais là, on n'est plus du tout dans le registre des fossiles. Ce sont des roches métamorphiques, des gneiss, qui, aujourd'hui, à l'heure où on parle, sont considérées comme les roches les plus anciennes.
Alors, le plus vieux, c'est avec des minéraux qu'on appelle le zircon, et on arrive aujourd'hui à du 4,4 milliards d'années.
On retrouve en tout cas la géologie dans beaucoup de domaines, très importants, c'est ce qu'on découvre aussi dans la revue Espèces, dans le monde artistique par exemple, et en musique, alors ça c'est peut-être le plus inattendu, avec le lithophone qui paraît-il exister à la période préhistorique. Je ne sais pas si on en a la preuve absolue, Pierrick Graviot.
Bah, la preuve absolue, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la musique ni des temps préhistoriques. Ce qu'on peut dire, c'est que l'homme préhistorique a commencé à faire de la musique en tapant des objets les uns contre les autres. Donc là-dedans, il y avait probablement des cailloux. Voilà. Donc je crois que le premier lithophone, c'est un peu...
Le bruit du silex, peut-être.
C'est un peu, par exemple. Oui. C'est un peu ça. Ensuite, c'est vrai que d'une d'une manière beaucoup plus récente. Et il y a des artistes, des musiciens contemporains.
Bon, on va en écouter. Hein. On a un extrait justement d'un artiste qui s'appelle Jeanne Marmenou. Alors, c'est un Belge. Voilà ce que ça donne. Il n'est pas en train de faire sa vaisselle, hein. Il fait un véritable concerto de pierre. C'est étonnant quand même.
Alors il y a lithophone et phonolithe.
Quelle est la différence?
Le phonolithe, c'est le nom d'une roche, une roche volcanique qui sonne.
Alors c'est ça, apparemment lui joue sur des pierres volcaniques, c'est précisément ce qu'il fait. Il est percussionniste et multi-instrumentiste, et donc il joue de cette façon-là. Mais il y a d'autres artistes qui donnent des concerts régulièrement.
Tout à fait, alors il y a Nicolas Fries qui a organisé un concert de pierres il y a maintenant peut-être une dizaine d'années, peut-être plus. Je ne me souviens plus très bien, je sais qu'à l'époque il était venu au BRGM emprunter toute une collection. On avait travaillé ensemble, on avait essayé de trier un petit peu les roches ou les minéraux qui donnaient le meilleur son possible.
Allez, on réécoute un instant. Voilà, petit concert de pierre pour évidemment coller avec notre thème géologie. Et puis c'est vrai que les artistes utilisent beaucoup le marbre, évidemment. Il y a plein d'exemples qui sont cités aussi dans la revue. Le basalte, et ça depuis effectivement très longtemps, depuis l'Antiquité. Dans les tableaux également, on s'inspire bien sûr des roches et des montagnes. François Michel.
Vous savez que le David de Michel-Ange, c'était un caillou qui avait été mis de côté parce qu'il n'était pas suffisamment de qualité pour être utilisé par les sculpteurs de l'époque. Et il avait été repéré par Michel-Ange, qui en a tiré
un magnifique bloc.
Sans doute la statue la plus célèbre du monde.
À voir, à Florence. On vous retrouve dans un instant. D'autres messages pour vous sur franceinter.fr.
You say I move so fast
Angus et Julia Stone.
Nous sortîmes du village et commença la féerie. Je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Un grand oiseau noir marquait le milieu du ciel et de toutes parts, comme une mer de musique, montait la rumeur cuivrée des cigales.
Celui-là, là, c'est tête rouge. Ça, c'est tête ronde. Et celui-là, c'est le taoumé. On lui dit aussi le tubé. Et là-bas, au fond, c'est Garlaban. Au bagne de l'autre côté, juste au pied.
Moi, je suis né à Aubagne.
Alors, tu es d'ici. Tu, Calogne.
Et moi, je suis né à Saint-Loup. Est-ce que je suis d'ici?
Un peu maigre.
Voilà, dans cet extrait de La gloire de mon père d'Yves Robert en 1986, on voit se dessiner tout ce paysage de roches, François Michel. Hein.
Ah ben on est dans les calcaires de Provence, donc une chaîne de montagnes un petit peu à part entière, orientée est-ouest, et puis qui domine Marseille, et puis qui s'en va vers le Luberon, et qui fait la jonction avec le sud des Alpes et les Hautes-Alpes.
Pierre-Yves Graviot, depuis 2007, l'État a entrepris d'inventorier le patrimoine géologique national, en recensant justement l'ensemble des sites avec les sciences de la Terre, donc c'est en cours toujours?
Oui, tout à fait, le patrimoine géologique national est en train d'être inventorié, effectivement, à l'initiative du ministère en charge de l'environnement.
Oui.
C'est une opération qui est réalisée sous la responsabilité du Muséum national d'histoire naturelle, Patrick de Vever, donc, qui a collaboré à ce numéro d'espèce. C'est un peu le grand patron, si on peut dire, de cet inventaire. Et je travaille justement avec lui à différents niveaux.
C'est un travail compliqué. On a une idée du nombre de roches qui qualifient justement notre territoire.
Alors, c'est un peu difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un travail colossal qui est mené dans les différentes régions sous la responsabilité des DREAL. Le nombre de sites, maintenant, dans la mesure où l'inventaire est en cours, c'est un petit peu difficile à déterminer, mais il va se chiffrer par plusieurs milliers, par exemple, sur uniquement en métropole.
Ouais. Cette variété de roches dont on parlait donc, pour le territoire français tout à l'heure, elle est valable quasiment pour tous les pays du continent, où il y a des particularités, vraiment une diversité très française?
Alors, il y a une diversité absolument propre à la France. Alors,
qui s'explique comment?
Peut-être pas uniquement à la France, mais ce que je peux dire, on parlait tout à l'heure de la carte géologique.
Hein. Ouais.
Quand on regarde la carte géologique de la France à l'échelle du million, ou même à une autre échelle, on s'aperçoit, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une mosaïque très...
Oui.
Et cette mosaïque trahit, en fait, l'histoire géologique très complexe qu'a eue la France avec... quatre chaînes de montagnes qui se sont succédées en 2 milliards d'années, ce qui est quand même important, à la différence. Et c'est donc ça en France qui vous donne une diversité de paysages et de matériaux de construction. À l'inverse, si vous allez dans le nord de l'Europe ou dans le Canada, vous allez traverser des immensités, des forêts de bouleaux sur des centaines de kilomètres. Vous regardez la carte géologique, vous avez une seule couleur, une seule roche. Je schématise, mais c'est un peu ça.
François Michel, donc cette complexité,
elle est
un petit peu française en tout
elle
cas
est
sur
totalement
le continent.
Française, soyons chauvins, il n'y a pas de honte dans ces cas-là. Elle est totalement française, j'avais quand même deux histoires principales, comme disait Pierrick tout à l'heure, qui sont les deux histoires des deux dernières chaînes de montagne. C'est-à-dire la chaîne hercynienne qui correspond à la naissance de la Pangée, à la collision de tous les continents. Et là, on a été vraiment en plein milieu avec, c'est vrai, l'Espagne, mais aussi le sud de l'Allemagne. Et puis ensuite, tout ça, ça se déchire. Donc une sédimentation très très variée pendant la période du Mésozoïque, le secondaire comme on dit classiquement, et puis après la fermeture des Alpes qui de nouveau a bousculé tout ça, donc on a une variété absolument fantastique qu'on n'a pas en Europe du Nord, ni même par exemple sur les pourtours méditerranéens où les paysages sont essentiellement calcaires.
Alors justement, il y a un exemple étonnant qui est donné dans Espèce avec la photo de la dune du Pilat, qu'on connaît bien, et qui est le résultat en fait de l'érosion du Massif central et des Pyrénées, c'est ça?
Alors, c'est pas la dune qui est le résultat de l'érosion du Massif central. C'est, en partie le sable de la dune.
Ouais.
C'est-à-dire que il est clair que l'érosion, tout à l'heure on parlait de roches-mères, donc les granites, les gneiss du massif central qui contiennent des grains de quartz sont attaqués, érodés, libèrent ces grains de quartz, des sables se forment, les rivières et en particulier la Dordogne, la Vézère, tout ça vont descendre, accumuler les sables vers les Landes, et puis ça arrive aussi par depuis les Pyrénées. Et puis récemment, c'est le vent, c'est la mer qui ont façonné tout ça pour ériger le tas de sable.
Alors, il y a un autre site qui est formidable, le ravin de Corbeuf, en Haute-Loire. Ça, c'est un vrai joyau géologique, assez peu connu, qu'on découvre en photo. Il faut le décrire. C'est une sorte de petit canyon, c'est ça? On peut le décrire comme ça?
C'est ce qu'on appelle des badlands, avec un terre, leur mauvaise terre, alors que c'est très très beau. Ce sont des argiles ou des marnes qui sont totalement ravinées par des petits ravins qui s'interfèrent les uns avec les autres.
Oui.
Et alors ça, il y a ça dans pas mal d'endroits du monde. L'endroit le plus célèbre peut-être est aux États-Unis, c'est Zabriskie Point dans la vallée de la mort. Mais là, la particularité, on est à une trentaine de kilomètres au nord du Puy-en-Velay, c'est qu'on est dans des camaïeux de bleu, dans une douceur de couleur des argiles qui est extraordinaire. C'est tout petit comme affleurement.
C'est unique en France, non?
Ce paysage-là. Il y a la vallée des Saints aussi qui est très jolie comme ça. Et puis, alors, des Badlands comme ça, on en a bien sûr du côté de Gap, mais elles sont noires, ce sont les robines.
Ouais.
Alors que là, c'est très très beau. Oui.
Pierrick Graviou, puisqu'il nous reste peu de temps, parlez-nous de la Bretagne un petit peu, votre Bretagne chérie. Quel site il faut aller voir chez vous, justement?
La côte de Granit Rose.
Bon, on en a parlé tout à l'heure, un petit peu.
François Mitterrand a écrit qu'il s'agissait du plus bel endroit du monde. Éric Orsenna n'arrête pas de le dire.
Oui, donc ça fait deux raisons.
Voilà, et moi j'en suis persuadé, donc ça fait trois raisons.
Le sentier des douaniers à Ploumenac, par exemple, ça, c'est un lieu aussi à visiter absolument.
Ah, c'est un lieu absolument extraordinaire qui permet de pénétrer véritablement dans un chaos granitique.
Oui.
Là où ces boules de granit se forment, François en parlait tout à l'heure, l'arène granitique qui permet la formation de ces rochers, de ces boules qui ont ces rochers qui ont tous un nom. C'est un véritable inventaire à la Prévert. Vous avez le chapeau de Napoléon, la sorcière, le caméléon, etc. Donc c'est un site absolument.
Dans l'un de vos guides aussi, l'un des derniers en Bretagne, vous dites qu'on peut aussi découvrir des micro-falaises, parce qu'on parle des grandes falaises d'Étretat. Mais en Bretagne, par exemple, sur certaines plages, on a ces petites falaises qui sont en train de naître, en fait? C'est quoi le processus?
En fait, ce qu'on appelle micro-falaise, c'est simplement souvent des sols qui ont été érodés, dont on voit une petite coupe. Non, c'est tout à fait banal. Il n'y a rien de...
La cheminée de fées, François-Michel, qu'est-ce que c'est? Ça aussi, c'est étonnant quand même. On peut en voir en France.
Des cheminées de fées, oui, du côté de Serre-Ponçon. On parle aussi de demoiselles coiffées. Ça se passe le plus généralement, en tout cas pour la France, dans des anciennes moraines. C'est-à-dire des choses qui ont été déposées par des glaciers, où il y a des gros blocs, des blocs de tailles différentes, des graviers, des sables, tout ça un peu induré. Et quand c'est repris par l'érosion, une fois que les glaciers sont partis, eh bien c'est sculpté. Et les gros blocs protègent la colonne qui est en dessous de l'érosion. Et il s'édifie comme ça, une colonnade coiffée de son chapeau.
Oui.
Et le chapeau finit par tomber, la colonnade par s'effriter.
Voilà.
Voilà. Alors on a des phénomènes un petit peu analogues avec des terrains volcaniques, comme les fameuses cheminées de Cappadoce, par exemple.
Oui.
Mais chez nous, c'est dans des moraines essentiellement.
Bon, il y a plein d'endroits où on aurait pu aller à Mayotte, on aurait pu aller évidemment à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Il y a plein de choses à raconter encore dans cette histoire géologique.
Elle est très volcanique. En dehors de la Guyane, elle est très très volcanique pour les départements d'outre-mer.
Mathieu nous dit ceci pour terminer très rapidement. Pourquoi est-ce si difficile justement d'approfondir réellement votre discipline, la géologie, comme on le fait en biologie ou en astrophysique? Pierrick Graviou, pour terminer là-dessus.
Alors, c'est vrai qu'il est toujours plus difficile de parler de géologie que de parler de l'évolution de l'ornithorynque, par exemple. Bon, pourquoi? Parce que je crois que ce qui est difficile en géologie, c'est cette notion de temps. On en parlait tout à l'heure. Le temps en géologie n'est pas à l'échelle humaine. On raisonne en millions, voire en milliards d'années. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender. Et puis la deuxième raison, peut-être, c'est que la géologie a connu sa révolution culturelle, si je puis dire, la tectonique des plaques, dans les années 60. Donc on a un retard considérable C'est très jeune, c'est très jeune. Darwin, c'était en 1859.
Merci beaucoup à tous les deux, François-Michel et Pierrick Graviou. Tous vos ouvrages, ceux que vous avez signés, sont sur le site de La Tête au Carré. Ce sont des bons guides justement pour visiter la France. Et puis le numéro d'Espèces dans les kiosques encore pendant quelques jours, des pierres dans la vie des hommes. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaire sensible dans quelques minutes, quel sera le thème aujourd'hui?
Une affaire qui remonte aux années 1971-72 quand des détenus se sont mutinés. La mutinerie de Nancy, les détenus voulaient protester contre leurs conditions de détention et on en parlera avec celui qui était leur avocat à l'époque, Maître Henri Leclerc, par ailleurs président de la Ligue des Droits de l'Homme.
À tout à l'heure.